Laetitia reviendra vous informer tout de l'après-midi, car nous sommes mardi.
Salut,
à tout à l'heure. Midi, pour les infos.
Pas mal.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadokounadi.
Bonjour à tous,
Hilaire Mogoué, Bonny Passion qui sera tout à l'heure. Albert Algoum, Daniel Morin.
Ah, bravo Daniel.
Et nos invités, Céline Salette et Pierre Delamanchon.
Pour les 75 ans de Michel Drucker.
C'est ça. Céline Salette et Pierre Delamanchon, merci en tout cas d'être à notre micro dans une journée chargée en promotion, je tiens à le préciser.
Deux émissions à faire, ça
si
va.
Si vous les voyez à la télé, à la radio, partout. Mais vous venez nous présenter Nos années folles, le nouveau film d'André Téchiné.
Ah, c'est sorti, parti, André Téchiné. André les artistes.
Ouais. André Téchiné, film qui sortira demain au cinéma, ouais, je suis totalement sûr. Où finalement, Céline, c'est par votre personnage, c'est par amour pour un soldat, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. L'amour d'un soldat qui fuit, qui ne supporte pas les horreurs, qui va même jusqu'à se mutiler, s'auto-mutiler pour ne pas aller sur le front. Et par amour, vous l'aimez tellement que vous allez le déguiser, le maquiller, le transformer en femme, en Suzanne, pour qu'il puisse passer inaperçu et à nouveau sortir de sa planque et vivre.
C'est ça, c'est un déserteur, donc c'est un condamné à mort et c'est un homme qui doit se cacher. Et ils vont ensemble inventer cette espèce de créature qui va être Suzanne et qui va habiter le film, qui va être Paul travesti.
Ah, mais c'est votre amour qui le pousse à faire ça, tellement vous êtes tellement amoureuse de lui que c'est pas lui qui a le délire se transformer en femme ou d'être travesti.
Non,
ou
il d'aller... est plutôt contre au départ.
Oui, ça commence comme un jeu.
Ouais, c'est ça.
Ça commence comme un jeu et c'est vrai que la créature prend vie comme sous les doigts de Dr. Frankenstein.
Et alors vous, Pierre Deladonchamp, vous incarnez ces deux personnages, vous êtes à la fois le militaire et à la fois Suzanne. Je dis ces deux personnages parce que dans le... et puis c'est là où le film est très troublant, y compris par moments dans sa chronologie, y compris par les scène où vous êtes soit lui, soit elle, soit un peu des deux, au milieu. Un travail de dingue et vous êtes déchiré par à la fois la peur du front dans un premier temps, la peur d'être évidemment condamné, attrapé et abattu, et puis vous êtes pris au jeu qu'elle vous propose, c'est-à-dire de vous transformer en femme.
Oui, alors un jeu certes, parce qu'il y a des moments un petit peu drôle entre eux, mais elle lui dit aussi surtout que c'est la seule solution pour qu'il puisse sortir de cette cave dans laquelle il se cache, parce que sinon il peut se faire
arrêter, condamner, exécuter. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais,
À nouveau,
c'est sa vie qui est en jeu, quoi, comme à la guerre. Ouais.
Et pour rectifier un tout petit peu, c'est pas parce qu'il veut pas aller faire la guerre, il l'a déjà fait pas mal en fait. Ouais. Hein. Il est dans les tranchées et
il supporte pas ça.
Il supporte pas ça.
Dans les tranchées, il se planque.
Il se planque, c'est
pas un héros, quoi.
De l'index droit pour plus pouvoir tirer sur la gâchette. Et finalement, il s'évade de l'hôpital aidé par sa femme qui lui apporte un revolver en cachette. Et là commence l'épopée de Suzanne et Louise.
Il s'évade de l'hôpital parce qu'on lui dit ça ne cicatrise pas. C'est pas grave, vous allez quand même retourner au front malgré cette cicatrice qui ne vient pas au bout du doigt.
Oui, parce qu'en plus, dans la vraie histoire, Paul Grapp entretenait sa blessure avec des excréments. Pour être sûr qu'elle ne guérisse pas.
Pour que ça pourrisse et pour que ça continue.
Exactement. Et ça, c'est vraiment été avéré. La blessure était entretenue par. Il la traînait partout pour être sûr qu'elle ne guérisse jamais et qu'il n'y retourne pas.
Et alors, le point essentiel, et vous l'avez dit, tout cela est une histoire vraie.
Exactement.
Est une histoire vraie. On recevra d'ailleurs Fabrice Virgili qui a co-signé le roman La garçonne et l'assassin avec Daniel Volman. C'est ce point de départ, c'est ce roman que Téchiné a lu et à partir de là, se sont fait même plusieurs scénarii de Nos années folles. Un film totalement bouleversant dans l'histoire d'amour et dans la véracité
et d'une liberté incroyable. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est comment le personnage de Paul, aidé par Louise, commence à se travestir, comment il devient invisible alors qu'il est plus que visible finalement, c'est le paradoxe de l'histoire, et comment il parvient tout d'un coup à devenir autre, avec une forme de grande liberté dans votre relation de couple, puisque Paul, devenu Suzanne, va aller à la rencontre d'autres corps, la nuit venue.
Il va se prostituer au bois de Boulogne. Et ça devient pratiquement un fantasme dans lequel votre femme ne veut pas rentrer.
Exactement. En fait, il faut savoir que, encore une fois, dans la vraie vie, là où il se cachait, c'était juste à côté du bois de Boulogne, dans le 16e.
J'ai ma camionnette là-bas.
Et que, vous voulez dire qu'il se serait caché près du bois de Vincennes, il serait allé aux zoos, c'est ça?
Voilà, il serait peut-être devenu zoophile.
Non, mais voilà, c'est pas ce que je voulais dire.
Faut pas le suivre, les éléphants.
Non, mais bon, j'aurais pu parler de la foire du trône, alors, je sais pas. Bon.
Non, mais voilà, et il y a eu ça comme point de départ, le bois de Boulogne, puis très vite, les parties fines dans les hôtels particuliers.
C'est ça. Et puis, c'est la période. Voilà. C'est-à-dire les années folles, là
on
où
on se lâche, on essaie de trouver du bonheur quelque part.
Après la guerre, on n'a peur de rien pour s'amuser. C'est la sexualité à tous les exactement, et que ce soit l'homosexualité, la bisexualité, l'hétéro, enfin ça part dans tous les sens parce que tout est permis après les horreurs de la guerre.
Et même pendant, je crois bien que pendant la guerre, il y avait des gens qui justement en résistance organisaient des soirées pour justement aller un petit peu mieux.
Elle était belle, la résistance.
Non, mais la résistance. Psychologique, en tout cas.
C'est se sentir vivant. C'est se sentir vivant quand on est environné par la mort. Voilà. Donc, à un moment, tous les moyens sont bons.
Céline Salette,
tu sais de quoi tu parles,
et Pierre Deladonchamp sont nos invités pour parler de ce nouveau film d'André Téchiné, Nos années folles, qui sortira demain au cinéma. J'espère Maréchal Ganache. Je sais, vous avez mal vécu, évidemment, le déserteur. Ouais. Vous avez compris pourquoi nous avons invité.
Mon cher Arnagué.
Quoi?
Certains jours, je me demande si vous le faites exprès, ou ce qui est plus grave encore, je me demande si l'indécence, l'indélicatesse, la muflerie ne sont pas inscrites profondément dans votre nature.
Dans mes gènes.
Comment osez-vous me poser cette question quand vous savez pertinemment que ce film, dans un effol, est une apologie de la pire des lâchetés, à savoir la désertion, qui ne pouvait que me heurter, me blesser, me révulser. Sur cette antenne, il n'est pas dans mes habitudes de me dérober aux obligations de mon CDI, qui, je vous le rappelle, fut attribué par Mathieu Galette.
Galet.
En français, on prononce toutes les lettres.
Non, on ne dit pas Paris.
En personne, Galette. Je ne suis pas du genre gréviste non plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce matin, face à cet éloge de la couardise, de la lopétrie assumée, qui semble vous enchanter tous, je choisirai de me taire. Mais vous ne vous en tirerez pas à si bon compte, mon cher Nagui. J'ai demandé à un très vieil ami de venir à ce microphone pour exprimer à vos auditeurs toute sa désapprobation. Il s'agit de Jean-Philippe Pétain, le neveu du maréchal Pétain.
Non.
Jean-Philippe, c'est à vous.
Français, chers auditeurs, chères auditrices de la radio française,
j'ai
des choses graves à vous dire.
Non.
Je hais les mensonges de Nagui qui nous ont fait tant de mal. Nagui, au lieu de faire appel à des personnalités françaises, répondant au bon nom de collaborateurs, a préféré s'entourer d'un ramassis de rastaquaires apatrides et de saltimbanques dont la vénalité n'a d'égal que l'immoralité. L'invitation aujourd'hui de Pierre Deladonchamp et Céline Salette, que je ne salue pas, est l'aboutissement de cette politique de dénigrement systématique de nos valeurs les plus sacrées, à commencer par le respect dû à l'héroïsme de nos chers poilus. Hélas, les seuls poilus admirés par Daniel Morin, Guillermo Guise, Tanguy Pastureau et Albert Algout sont ceux des malheureuses qu'ils soumettent à leur caprice libidineux.
Oh non !
En ces heures douloureuses, c'est donc le cœur serré que je vous dis, chers auditeurs, chères auditrices de la radio française, n'écoutez pas cette émission. Adieu.
Bravo, adieu.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
C'est bien, vous avez évité toute forme de jeu de mots avec les producteurs du film. C'est élégant de votre part. Nos années folles, film d'André Téchiné avec Pierre Deladonchamp et Céline Salette. Il faut préciser quand même que vous avez été, Pierre Deladonchamp, contacté par André Téchiné dans un premier temps. Pas contacté, carrément casté. Et vous avez dit dans une interview que vous aviez peur de ne pas être pris. Et tout le test s'est fait sur Suzanne.
Il fallait évidemment que la...
Être crédible, voilà, en femme.
Et donc il a convoqué des maquilleurs, coiffeurs et autres costumiers pour essayer de commencer une transformation. On a tâtonné, hein, on a fait plein de couleurs de cheveux, de longueurs de cheveux et de maquillages différents pour obtenir ce que André estimait de crédible et de... Voilà.
Alors enfin, c'est une belle pute.
Et votre pomme d'Adam ?
caché.
A été une gêne ou pas? Parce que tous les hommes ont une pomme d'Adam, mais pas aussi prononcée que la vôtre.
Oui,
or, voilà. Elle est utile dans le film, d'ailleurs.
Oui, c'est ce que j'ai dit à André, et il a un tout petit peu modifié le scénario pour qu'on puisse en parler dans une scène où je dis, ma pomme d'Adam, on la voit trop, il faut la cacher.
On met un foulard.
Voilà, on met des foulards, des étoles, et effectivement, sinon, ça faisait vraiment. On voyait que ça.
Est-ce que vous aviez lu la bande dessinée? Il y a une bande dessinée géniale, Mauvais genre. Je me souviens plus de l'auteur aux éditions Delcourt. Je crois que vous l'aviez lu ça aussi avant, parce que c'était très documenté.
Oui.
Avant ou une fois que André Téchiné vous a parlé du film?
Moi, j'ai lu dans l'ordre le scénario, le livre et la BD.
D'accord.
Donc, pour travailler le rôle, vous avez tout potassé, entre guillemets.
Oui, tout en restant quand même concentré sur le scénario, car il a fait des ellipses sur des choses qui ont eu lieu et qui ne sont pas dans le film. Et il a romancé des choses qui ne sont pas dans la vraie vie de Paul et Louise.
Et puis il y a le spectacle, il y a Michel Faux et ce spectacle, cette comédie musicale qui lui ont permis presque en effet de réalisation soit de faire des ellipses, soit d'évoquer certaines scènes en les montrant d'une manière plus
artistique,
fantasmée. Ouais.
Et tout à fait, et d'autant plus qu'on a demandé ça à André dans un souci d'économie, parce qu'on ne pouvait pas reproduire toutes les scènes de tranchées par exemple.
C'est vrai, le problème des films de reconstitution.
Voilà, ça coûte très cher, on avait un budget assez serré. Et du coup, il a eu cette idée de génie d'intégrer ce cabaret qui permet au film d'être un petit peu cubiste. Et on passe d'une époque à une autre.
Mais ça en rajoute au trouble d'ailleurs, parce qu'on essaye de se repérer aussi par moment. La chronologie est globalement respectée, mais il y a des moments où on se demande si on est dans le rêve ou dans la réalité.
André a voulu perdre le spectateur autant qu'étaient perdus Paul, Louise et Suzanne.
Céline, vous vous êtes retrouvée dans le film grâce à Pierre Deladonchamps, c'est lui qui, le premier à Cannes, vous a parlé de ce projet.
Oui.
C'est fort.
C'est hyper beau. Ouais. Il m'a un peu appelé en quelque sorte comme une petite fée magique sur ce film. Ouais, et puis après, les circonstances et la chance ont fait le reste, c'est-à-dire l'actrice qui devait jouer le rôle ne l'a pas fait. Et puis j'ai rencontré André qui était un peu réticent, qui s'est laissé aller.
Il y avait un premier casting qui avait été fait avec une comédienne qui n'a pas suivi. On sait qui elle est.
Oui.
Ah d'accord, ok. Mais vous le dites pas par élégance pour.
Pourquoi?
Non, mais je sais pas comme ça parce que.
Non.
D'accord. Donc.
C'était Christian Clavier. Voilà.
Non, c'est Adèle Exarchopoulos, mais comme c'est elle qui le dit dans des interviews.
Ah, c'est vrai. Ah, je savais pas.
Elle...
Moi, je connais rien, je suis pas très.
Non, il faut pas le dire, Nagui.
Il faut pas le dire.
Bah, si, pourquoi? Si on peut le dire, c'est Adèle.
Ouais.
Non, mais c'est une magnifique actrice. Après, moi, je suis quand même plus âgée qu'elle, donc c'est vrai que je pense qu'André a fait la gueule au début, quand même.
Mais non, parce qu'en plus, vous avez vraiment le physique de l'époque.
Mais grave.
Oui, non, mais en fait.
Vous avez un vieux physique.
C'est ça.
Très vieux physique.
Merci infiniment. Non, je dis ça pour rire, mais en vrai, après on était très heureux de collaborer ensemble. Ça s'est passé merveilleusement. On était.
Alors, puisqu'on parle de physique et puisque nous sommes d'odieux pervers, il y a beaucoup de scènes nues.
Et encore, on en a coupé beaucoup.
Alors, mais même, c'est carrément le premier plan est très suggestif, même pas suggestif, il est très précis, très naturel. On a presque l'impression qu'il était important à l'image de voir des corps, que ce soit des gueules cassées de la guerre, que la beauté de vos deux corps.
Bah oui, enfin, André...
Je parle surtout du corps de Céline, pardon, excusez-moi, je suis un peu troublé. Quand je parlais de la beauté du corps, évidemment, suite
Céline. Voilà.
Le vôtre est
vous
très bon.
Vous êtes pas mal vu, oui, on m'a dit qu'il était bien.
En garçon ou en fille, alors
écoutez, je ne sais
les
plus.
Les deux, justement. C'est partie des enjeux du film, c'était le... l'héros et le thanatos de la question du film, c'est-à-dire l'érotisme face à la violence de la mort. Donc, en fait, c'était une condition... Et je trouve que ce qui est très beau dans ce que fait André, c'est à la fois la pudeur et l'expressionnisme de ce travail avec les corps et ces scènes-là.
Et comment vous, Pierre, vous avez pensé la bascule? Parce que entre le moment où Paul accepte d'être travesti en femme et ensuite sa libération, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à vous et dans la tête de ce personnage pour tout d'un coup aller se prostituer au bois de Boulogne?
L'ellipse est assez grande dans le film, justement. On comprend pas trop les chemins qu'il prend entre le moment où il refuse et le moment où il adore ça.
Ouais.
C'est volontaire, parce qu'André voulait pas s'attarder là-dessus.
Ouais.
Moi, je me suis laissé porter par les scènes qui, justement, faisaient en sorte qu'on... Au début, on le voit réticent et même énervé, et même un petit peu macho, genre je veux pas me déguiser en bonne femme.
Ouais.
Ah, tu viens avec moi, c'est super, on fait des trucs géniaux dans le bois.
Vous avez travaillé ça comment?
Ben, j'y suis allé.
Au doigt.
Voilà. Les chemins, je les connais.
Au doigt et au bois. Et
Céline,
c'était
pas... Céline, votre micro est ouvert. On entend tout ce que vous
dites. Mais c'est un terme technique du cinéma.
On entend tout ce que vous dites.
On travaille les personnages au doigt, ça existe.
C'est
ça,
au doigt et à l'œil.
C'est l'expression.
Nos années folles, le nouveau film d'André Téchiné. C'est la première fois l'un et l'autre que vous travaillez avec André Téchiné. Oui. C'est culte de travailler avec André Téchiné. Sa manière de travailler vous a marqué?
Oui, c'est hyper impressionnant. Mais il est très exigeant, André. Moi, par exemple, je me rappelais hier soir que j'avais mis un jour et demi à dire la première réplique. C'est-à-dire le premier jour de tournage a duré un jour et demi, quoi. Mais et pas... je disais une réplique, bah parce que c'était jamais bien.
Mais alors, son exigence se traduit comment? Par une nervosité?
Six ans de tournage. Non,
il est très patient, mais il écoute les prises très fort. Donc déjà, on a une espèce de retour assez...
C'est troublant, oui.
Ouais, ouais,
vous
c'est...
vous entendez, en fait,
moi,
dans le combo. Vous ne voyez pas, mais vous entendez le son.
C'est détestable, quoi, ouais, de s'entendre. Et donc, il travaille comme ça beaucoup, pas mal à la voix. Et puis, à l'endurance, quoi.
Oui, il nous laisse faire la scène une première fois. Il enlève tout ce qui lui plaît pas, il ronge jusqu'à l'os. Une fois qu'il a l'essence, il dit maintenant, vous êtes libre.
Ouais, il travaille.
Et on trouve une liberté dans ça. Mmh. Et
c'est bien dans sa contrainte, ouais, vous avez votre liberté.
Et mais ça marche, ouais, vraiment bien. Bah, c'est-à-dire que voilà, il est.
Il faut cadrer.
Il veut bien qu'on soit force de proposition, il veut bien qu'on rajoute des choses, mais une fois qu'on a l'essence de ce qu'il ressent dans la scène et les enjeux psychologiques et physiques parfois.
C'est une forme d'épure à l'écran, quoi. Ouais. Ouais.
En tout cas, le casting vient au-delà du talent d'André Téchiné. Il y a aussi, et heureusement, le talent des comédiens, avec le talent de Céline Salette, le talent de Pierre Deladonchamp, le talent de Michel Faux, Grégoire Le Prince Ringuet aussi, que je voulais citer. Il y a
et Virginie Pradal, la grand-mère, elle est fabuleuse.
Absolument, elle est touchante. Et c'est elle la première qui dit, mais il faut dénoncer. C'est pas possible. Et...
Oui, elle nous place dans le contexte de l'époque, là, la réalité. C'est-à-dire, c'est une folie. Ceux qui font... Et purement simplement une folie. C'est-à-dire, c'est unique, c'est assez exceptionnel dans l'histoire de la guerre. C'est-à-dire...
Mais il y a tous les jeux de mots possibles, pardon, autour de folie. C'est-à-dire c'est une folie de le faire. Il y a les années folles, qui est l'expression évidemment consacrée. Et puis, il y a cette folle attitude, au sens sexuel du terme, choisie par le héros. En tout cas, c'est toujours un événement à Nouveau Téchiné. Ouais. Mais en plus, c'est un très bon film. Vos oreilles ont sifflé, là, quand on vous a annoncé la venue de Céline Salette et de Pierre Deladonchamp.
Oui, et quand je pense à vous, forcément, je pense à André Téchiné. Et écoutez ce que nous disait Roche Dizem il y a quelques jours à son sujet.
Je lui dis n'importe quoi. J'ai pas de CV, donc je m'en invente un. Sauf que je mélange les films et les metteurs en scène. Donc moi, à l'époque, j'étais fan de Belmondo. Et je lui dis, j'ai joué dans le marginal de Jacques Deray. D'Henri Verneuil, pardon.
Verneuil, ouais.
Alors que c'était Jacques Deray. Sauf que Jacques Deray, ça, à l'époque, ça me disait rien. Et il me disait, ah bon? Il me dit, mais je vous ai pas vu dedans. J'ai merde, il l'a vu, merde. Alors je lui dis, j'ai été coupé au montage, mais j'ai joué dedans, enfin... Je me suis inventé plein de... Et en fait, ce qui l'intéressait chez moi, c'était surtout que je n'ai rien fait. Et moi, je m'évertuais à m'inventer un film.
Son casting avec André Téchiné.
C'est ça, oui, il raconte des bobards, finalement, et que finalement, Téchiné, ce qui l'intéresse, c'est que son CV soit vierge. Vous, quand vous l'avez abordé, André Téchiné, est-ce que vous vous êtes dit, il faut lui donner quelques lettres de noblesse, Pierre Deladonchamp, il faut lui dire que j'ai évolué avec Alain Guiraudy, par exemple, avec des grands réalisateurs, avec Noiret...
Non, j'aime pas trop faire ça. Moi, je me suis présenté à lui quand on s'est rencontrés en lui disant que j'aimais beaucoup son travail, ce qui est vrai. Il savait que j'avais fait L'Inconnu du Lac et le Lioret, il l'avait pas encore vu parce qu'il est sorti, je crois, pendant qu'on tournait, si ma mémoire est bonne, à peu près. Et non, lui, ce qu'il voulait, c'est voir si la transformation marchait. Il m'aimait bien. Il a envie de travailler avec moi.
Donc c'est lui qui a fait la démarche de vous contacter.
Il m'a transmis le scénario.
D'accord.
Et je crois que j'ai été le seul, a priori, au départ, à qui il l'a fait.
D'accord.
Et qu'est-ce que vous seriez prêts, tous les deux, à faire pour convaincre un réalisateur? Est-ce que vous seriez prêts, comme Roche Dizem, à mentir, à raconter des collaborations avec d'autres?
Alors, collaboration, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot dans un film de guerre.
C'est un bon mot.
Roche Dizem, ce qui est très touchant chez lui, c'est cette capacité qu'il a eue à ce moment-là, une sorte d'audace à se vendre, parce qu'il voulait absolument, il avait un désir fort pour André Téchiné.
C'est sublime, en fait, ce n'était pas nécessaire. Et je pense que dans la vie en général, à part être bon sur un plateau et dans un film, il n'y a pas grand-chose à faire pour
obtenir un rôle.
Bah,
Mais quand vous retrouvez Céline dans la situation où
alors,
vous n'étiez pas celle qui était rêvée par André Téchiner.
Je peux vous dire la vraie vérité.
On m'avait dit
avant d'y aller, sois fraîche. Et là, j'étais quand même un peu paniquée devant mon miroir en disant mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas une salade fraîcheur. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas y arriver. Et en fait, et je suis arrivée, j'ai dit à André, écoutez, je me suis fait la plus fraîche possible. Alors, je ne sors pas du Tupperware, donc.
Tout ça parce que vous vouliez avoir les 10 ans de moins qui vous séparaient de l'autre
média. C'est aberrant. À la fin, je n'ai pas 10 ans de moins dans le film et je suis moins. Et voilà,
mais vous êtes totalement crédible dans le film.
Enfin, moi, je me pose aucune question. Ça n'a pas de sens. Mais c'est pour ça, il ne faut pas lutter contre ce qu'on est.
Est-ce que quand Leïla vous dit, seriez-vous prête ou prêts tous les deux à mentir pour obtenir un rôle, on peut se poser aussi la question de jusqu'où seriez-vous prêt à accepter certaines scènes pour faire plaisir à un réalisateur. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'on peut dire non à certaines choses?
Oui,
bien sûr. Même en amont, on en parle quand il y a des scènes qui nous gênent au scénario. On dit comment tu vas filmer ça, quel est exactement ce que tu veux dans ce.
C'est généralement autour de la pudeur que se situe la limite pour vous.
Bon, en général, oui, c'est ce qui peut paraître le plus déconcertant. Moi, je l'ai fait dans La Cône du Lac. Bon, voilà, c'est bon, on m'a vu sur toutes les coutures à poil. Mais je suis paradoxalement devenu plus pudique depuis que je ne l'étais avant. Ouais. Donc voilà.
Ça veut dire qu'avec le recul, vous n'auriez pas accepté de
le
faire.
Si, je suis très content d'avoir fait
ça. C'est fait, mais une fois, on n'en parle plus.
Mais c'est un choc pour moi de m'être vu à poil pendant une heure et demie, et du coup, je me dis bon, on se voit jamais autant à poil dans la vie. Il faut 18 miroirs, et puis.
Comme la chambre de Nagui. 18 miroirs.
Alors, c'est pas la chambre, c'est la backroom. C'est vrai que t'avais les yeux bandés ce jour-là, donc tu peux pas savoir.
Non, mais j'ai senti. J'ai senti mon reflet.
Vous aussi, vous mettez des limites, vous les exprimez même au réalisateur en disant.
Oui, mais t'es arrivé, par exemple, de dire à Bertrand Bonello que je ferais pas la Polonide, parce que je devais retenir un camarade acteur par la bite. Et j'ai
c'est un terme technique de cinéma.
C'est toi et Bite, c'est deux termes techniques du cinéma.
Ouais. Et je savais que je pourrais pas le faire. Il m'a dit, mais enfin, Céline, réfléchis bien quand même. Tu sers bien les mains. J'ai dit oui, mais.
Mais c'est un bon argument. Hein.
C'est un bon argument.
Ouais, tu sers bien les mains.
Et là, vous l'avez fait ?
Et non, je l'ai pas fait. Ah. Et c'est une chose qu'on s'est négocié avant.
Ouais.
Je savais que je ne ferais pas ça et je savais que je ne ferais pas non plus semblant de faire une fellation. Je n'y arriverais pas.
Ouais, ce qui n'a pas toujours été le cas de toutes les comédiennes et malheureusement pour la suite de leur carrière, on leur a reproché. En fait,
d'une part, il y a une limite entre acteur et faire des scènes de sexe pour de vrai. C'est quand même très intime. On peut très bien faire semblant de tuer, donc on peut faire semblant de baiser, à mes yeux. Et c'est des fois encore plus beau. Mais surtout, oui, c'est vrai qu'après, ça nous dessert, quoi. Parce qu'on dit, un tel ou une telle a fait des scènes de cul très poussées. Et ça peut être dur pour la suite.
Nos années folles, alors, tout est suggéré, tout est beau, tout est élégant, même dans les plus grandes perversions. On va rassurer aussi ceux qui ont envie d'aller voir le film. Et on ne sort pas totalement choqué, scandalisé par les scènes. Tout est évoqué.
Mon père l'a vu.
Très bien.
Ils ont adoré le film.
Ben voilà, nous aussi. Nos années folles, le film d'André Téchiner sort demain. Et voici l'humeur de Guillermo.
Oh, oui, merci. Quelle humeur à vous.
Ça va ? Bonjour les amis.
Bonjour. Salut.
Alors comme vous le savez certainement, dans la mythologie grecque, le jaune est le symbole du soleil, du miel et des bananes. Ce qui me fait dire que la mythologie grecque, c'était surtout du bon sens, quoi, finalement. Donc, ils arrêtent un peu les Grecs de se la raconter, là, comme s'ils avaient inventé le télécollement de l'universel, quoi. Et pourquoi je vous parle de jaune? Oui, parce qu'en ce mardi 12 septembre, journée mondiale et nationale de mobilisation, qui c'est qui se mobilise pas? Nous. Hein, trop bien. Vous avez vu? C'est vrai, on n'a pas tous la chance d'avoir pu donner un coup de main pendant la collaboration, pas vrai, Maréchal?
Yeah.
Ah, d'accord, les Français sont dans la rue, on est au boulot, et voilà, comme ça. Comme disait Bertolt Brecht à propos des gens comme nous, c'est ce qu'il disait? Des tas de trucs en allemand, mais voilà, je suis pas là pour étaler ma classe, même si je suis déçu. On m'avait dit, tu vas voir France Inter, c'est Radio Corée du Nord, etc. Tu vois, les journalistes se lavent jamais, les filles s'épilent avec du feu, tous les jingles font djembé. Même Léa Salamé, elle roule ses cigarettes, sérieux, c'est un squat aux frais du contribuable. Et en fait, pas du tout, hier, persuadé qu'on se soulèverait et tout, que ce serait la folie, j'ai appelé Nagui, j'ai dit, alors on fait quoi demain par rapport au code du travail? Il me fait, code du travail. Qu'est-ce que j'entends exactement par code du... Alors j'ai appelé Jibi, le rédac chef de l'émission, j'ai fait, quoi Nagui, il est pas sensible à la mobilisation sociale? Il m'a dit, si, complètement. Si tu considères que Gilbert Montagnier est sensible aux couleurs chaudes et aux lignes de fuite, hein, c'est ce genre de sensible-là. Je fais, ah oui, et pourtant c'est pas un patron voyou, quoi. Je me rappelle, quand je suis revenu de vacances, il s'est souvenu de mon prénom. Il m'a fait, oui, là c'est le moment. Mais c'est plus une question de culture du syndicat. syndicalisme hein, chez lui. Tu vois, les pyramides, avec la CGT, on sera encore à l'entresol. Quoi. Tu vois, donc il y a des réflexes qui se gardent. Du coup, je vous admets que j'étais un peu ébranlé. C'est vrai. Bon, pour Daniel Morin, j'étais au courant. Quoi. Son chauffeur, son pins du MEDEF, sa calvitie. Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance. Mais Leïla. Leïla, quoi. Je demande à Djibi, Leïla, elle est pas de gauche. Elle m'a dit qu'elle était venue en RER un jour. Mais, oui. Il me dit oui, mais depuis qu'elle présente le JT de France 2, elle est ni de gauche, ni de droite, mais de droite. Tu vois, comme Laurent Deutsch. Alors tu me casses pas les couilles pour le boulot. Du coup, je me suis retrouvé seul face à un cas de conscience. Parce que voilà, les grèves, c'est comme les queues leu-leu, quoi. C'est tout le monde ou c'est personne, tu vois. Hein, seul, ça donne envie de se crever dans un lave-vaisselle, quoi. Mais en même temps, je me suis dit, so what? Je suis plus un gamin, quoi. C'est vrai, j'ai fait deux fois la chlamydia. Merde, j'ai une carte Carrefour, quoi. Et sérieux, pendant un petit moment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire la grève tout seul, Florent Pagny style ici. Vous aurez pas ma liberté de penser. Je m'aurais déjà la double page dans Libé, comme ça. L'homme qui a dit non, sous-titré Le chroniqueur belge a su redonner sa dignité à une chaîne souillée par la compromission. J'étais comme un ouf, franchement. Je me disais, tu sais quoi, ça c'est du 60 likes sur Facebook, franchement. Charline Vanhoenacker qui arrête de me dénoncer à la Sécu de Radio France et tout, tu vois. Muriel Pénicaud qui me fait des excuses publiques, hein. Tu m'as ouvert les yeux, Guillermo Petit Carino. J'ai vraiment fantasmé le truc. C'était hyper gratifiant. Et puis, après, j'ai réfléchi à l'impact véritable qu'aurait une grève solitaire de ma part sur la grogne sociale. Alors, j'ai ressenti beaucoup de tristesse. Vraiment, je me suis dit, si je fais ça niveau caisse de résonance, ce serait un peu comme si, pendant la Coupe du Monde 98, Bernard Diomède avait fait dans le vestiaire, les gars, démerdez-vous, moi, je joue pas. Ok, Bernard, bon film, hein. Non, mais pas la peine de me retenir, vous avez compris, c'est sans moi. Ouais, enfin, tu nous rejoins en boîte, du coup, pas de problème, mais il y a liberté. Donc, voilà. Paré de jaune à interroger la force de mes convictions et des sacrifices que je suis prêt à faire pour mes idéaux. Qui suis-je, politiquement? En vrai, avant j'étais de gauche, maintenant je suis célibataire. Et c'est pas compatible avec l'engagement politique, je crois. C'est quoi ton projet de société? Oh, je sais pas, me reproduire sous l'emprise de l'alcool? Votez si rose! Allez, bonne grève, les amis, si vous avez osé la faire, et bonne émission pour les autres.
Merci! La bande originale. Guillaume Bouguiz, nos invités sont Pierre Deladonchamp, Céline Salette pour le film Nos années folles d'André Téchiné, un film qui s'est inspiré de La garçonne et l'assassin. Et justement, nous recevrons le directeur historien, directeur de recherche au CNRS, c'est-à-dire Fabrice Virgili, qui co-signe avec Daniel Voldman La garçonne et l'assassin, mais ça sera après la bande originale. Justement, tiens, à propos de bande originale, il y a pas où il n'y a pas de musique en fait rajoutée dans le film d'André Téchiné, il n'y a pas de BO à ce film. Il y a vous qui chantez dans le film, vous en chantez deux, une chanson un peu grivoise.
Une
oui. Oui, auprès de ma blonde, c'est pas elle, c'est sa collègue.
Ah oui, c'est vrai.
Elle en a inventé une à l'hôpital.
Ouais, c'est
elle qui l'a écrite et composée. C'était
c'est
très
vrai.
Drôle.
On avait des problèmes de droit pour les chansons de Grivoise, ouais.
D'accord.
Elles étaient pas toutes bonnes d'ailleurs, et t'as écrit quelque chose d'encore mieux.
Sous l'impulsion de Pierre, parce que je ne fais rien sans.
Celle-là est très chouette.
Et vous pouvez nous la chanter à live, là
Ouais, je m'en rappelle plus. C'est quoi?
Je l'ai rencontré un beau dimanche.
Un peu plus tôt encore, on s'était plus. Je dois vous avouer qu'il n'était pas manche. Il me l'a mis directement dans le cul. Et j'ai trouvé ça si charmant que je lui ai dit très poliment. Cher monsieur, c'était délicieux, j'ai la fesse en feu. Prenez mon adresse tantôt, si vous avez le temps, je vous ferai voir ce qu'il y a devant.
Bravo. Plein de termes techniques du cinéma.
C'est beau.
Bravo, Céline.
C'est beau et surtout, c'est bien chanté.
Ouais.
C'est super bien chanté.
Alors, c'est les chanteurs qui étaient moins bons.
En 1994-95, Céline Salette, vous écoutiez.
Ah oui, j'ai pas osé.
Par cœur. Maria Carré, et vous avez même la chorégraphie du cheveu aussi, en plus, que vous rajoutez à cette chanson Hero de Maria Carré. Vous vous voyez dans quelle situation, dans quel cadre, dans quelle vie?
C'est trop fatigant.
Quand vous écoutez Maria Carré? Parce que la musique nous renvoie forcément à des situations, à des moments de notre vie.
Ouais, je crois que dans cette période-là, j'étais assez dans ma chambre en train de chanter ça à fond.
Avec des posters de Maria Carré?
Non, parce qu'elle était quand même pas très... Enfin bon, pas...
Ok, mais ça c'est fait.
Ouais. Et c'est le début du théâtre.
C'est à Bordeaux. Hein.
Ouais, c'est le début du théâtre. Alors, généralement, c'est les comédiens qui nous racontent ici qu'ils ont fait du théâtre pour séduire des filles. Ouais. Ben vous, c'est l'inverse.
Oui. J'ai commencé au collège quand j'avais 13 ans, parce que j'aimais bien un garçon qui faisait ça. Lui, il arrêtait très vite et moi, j'ai continué. C'est vrai qu'après, au lycée, je voulais faire ça tout le temps. J'avais eu une espèce de révélation. J'avais joué une prof hippie avec des lunettes de soleil bleu et j'avais fait rire les gens. Et après, je voulais faire ça tout le temps. Et
jouer ou faire rire, ce qui vous a plu?
Jouer, faire rire, être sur scène. qu'on me voit, qu'on me regarde, qu'on m'aime. Non, je rigole. Et du coup...
Ah, ça marche.
Et du coup, j'ai fait ça beaucoup, beaucoup au lycée. Je faisais les ateliers du lycée, plus trois fois par semaine, jusqu'à minuit, un atelier de semi-professionnel. J'étais comme une droguée, mais c'était bien.
Dans ces années-là, vous, Pierre de la Donchamp, vous écoutiez...
Ceci signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie.
L'harmonie et tout, ouais. La totale. Et là, vous vous voyez en train d'écouter Jimmy Cliff ou de voir le Roi Lion
c'est ça, c'est un clin d'œil au Roi Lion et à ses époques lycées, ça ne rajeunit pas. Où ma copine avec qui j'étais à l'époque me dit « Je fais du théâtre dans une MJC, viens avec moi, c'est génial, on va s'éclater. »
Là, on retrouve ce que disait Leïla, mais vous aimez bien faire rire vous aussi la
le
galerie.
Pitre, ouais. Ma mère me dit toujours, au lieu de nous saouler à table et à la maison à faire des proutes et des trucs pour nous faire rire, va un petit peu sur scène te défouler, ça nous reposera et ça te défoulera.
Pour canaliser votre énergie en fait.
Et puis un repère, c'est Benoît Magimel, je crois. Ça a été un
oui,
petit
alors
déclic,
Benoît Magimel, quand j'ai vu La vie est un love love tranquille avec mon frère à la télé, ça m'a vraiment marqué parce que c'est la première fois que j'ai vu qu'un jeune, un enfant, parce que ça c'était vraiment plus tôt, pouvait porter un film comme il l'a fait avec brio et je trouve que c'est un acteur formidable et il reste encore aujourd'hui un de mes idoles parce que je trouve que c'est un acteur incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer à Angoulême là il y a quelques temps et j'étais ravi de pouvoir parler avec lui et de lui dire ça.
Et vous n'avez jamais joué ensemble encore ?
Non, mais ça viendra certainement.
Oui, puisque visiblement c'est vous qui décidez des castings de tous les films dans lesquels vous êtes. Je pense que ça va arriver assez rapidement.
On verra, je sais pas.
Il
pourrait jouer mon père. Je rigole, on a presque le même âge.
Vous voyez où ? En 2001-2002, Pierre de la Donchamp, vous écoutiez celui qui fait son comeback en ce moment.
Et surtout, va pas croire qu'il y aura 10 000 filles. Je dis ça pour ma famille, je n'étais pas parti en vrille. On me jette de la terre, on dépose quelques fleurs. Seul, sous son sol pleureur, solar pleure.
Là, on est dans les années étudiants à Paris, dans une piole d'étudiants. Vous êtes quoi ?
C'est le switch entre mes études traditionnelles que je pensais être les mieux pour moi parce que je pensais pas être fait pour être acteur. Je ne me voyais pas professionnel.
Vous voyez quoi ?
Eh ben, j'avais fait des études commerce, communication et de langue vivante que j'aime beaucoup pour voyager dans le monde entier, gagner des sous et voyager encore plus.
Après, ce que font les trois. Pratiquer la langue.
Ouais, j'adore la langue vivante.
Ce que font trois quarts des garçons qui savent pas trop quoi faire en disant bah je vais faire comme langue vivante et voyager.
Ça, ouais. C'était pas terros, mais bon. Il se trouve qu'un ami avec qui je faisais ce petit cours à côté me dit je passe le concours du cours Florent, veux-tu être ma réplique ? Je dis oui, on me propose d'intégrer le cours. Je dis à mes parents, on me propose d'intégrer le cours à Paris. Ils m'ont dit, on t'aide, on te suit.
En classe libre ?
Non, en classe payante.
Ouais.
Très payante.
Mais c'est fou quand même cette coïncidence. C'est-à-dire, on vous demande de donner la réplique et puis on vous dit sur place, venez dans l'école.
Ouais.
C'est dingue.
Ouais, ouais.
Ça joue à rien.
Et votre ami, il a fait carrière lui ou pas ?
Il a commencé à faire l'école en même temps que moi. Puis finalement, il a bifurqué vers l'éducation. Il est devenu CPE. Mais ça lui plaît beaucoup parce que justement il peut monter des projets pédagogiques autour du théâtre.
L'important c'est qu'il soit heureux. Mais
et
surtout...
il s'appelle Mohamed et je le salue parce que je lui dois aussi beaucoup.
Et ce sont vos parents qui vous ont à la fois poussé vers le théâtre quand vous étiez adolescent et à la fois soutenu financièrement parce que ça coûte cher les cours Florent quand c'est pas en classe libre.
Ouais, alors je bossais aussi un petit peu à côté. D'accord. Pour que ce soit pas les seuls à payer tout ça, mais ils m'ont soutenu de manière générale depuis très jeune à faire ce que je voulais.
Quel genre de job vous faisiez parallèlement au cours Florent ?
J'ai tout fait. Hein.
Pion ou
J'ai fait
serveur.
Agent immobilier, j'ai fait vendeur de cigarettes dans un relais H à la gare. J'ai fait pute.
Non. Comme nous toutes. Hein.
Non. Mais, non, non.
Faites un tri entre les
maintenant, vagues. Maintenant, je fais pute parce que acteur, c'est plus, voilà, c'est plus considéré. Non, mais c'est pas vrai. J'ai fait plein de petits boulots. Caissier chez Auchan,
c'est ce que dit
McDo.
Le personnage de Catherine Yégel dans la pièce de théâtre dont on a parlé sur les Blattes.
La nostalgie
des Blattes. Où elle dit justement que elle parle des comédiennes en disant on est des putes. Vous pensez que c'est pute de luxe la phrase.
Voilà, parce que quand même, je n'échangerai pas ma vie de comédien contre quelqu'un qui se prostitue, surtout si c'est pas un choix, parce que c'est beaucoup plus dur.
C'est jamais un choix de se prostituer.
Ça, je pourrais pas vous dire, moi. Mais...
Bah, tous les témoignages dont
je peux dire que Nagui connaît le dossier.
Okay. C'est jamais un choix. C'est que dans le fantasme des clients en disant si elle fait ça, c'est qu'elle aime ça, mais c'est faux.
Il ou elle d'ailleurs, parce qu'il y a pas des femmes.
Ce sera le débat d'une autre émission.
Et, oui. Non, mais voilà, je trouve que être acteur, c'est aussi être tributaire du désir d'un réalisateur, d'un producteur, parce qu'il n'y a pas que les réalisateurs qui décident parfois, malheureusement, ou heureusement. Et donc du coup, oui, on gagne de l'argent pour donner de notre personne, mais c'est pas sexuel justement. Ça s'arrête à un niveau qui, généralement, est correct.
Dont on a déjà parlé tout à l'heure. Exactement. 2001, 2002, Céline, vous écoutiez Magic System.
Mais on dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Nyatao. On dit premier Gaou n'est pas Gaou.
À partir de quelle heure en moyenne vous êtes sur la piste de danse et vous mettez le feu, Céline?
Quand je suis jeune, c'est très tôt. Hein.
Vous sortiez beaucoup?
Non, je sortais pas beaucoup, mais quand je sortais, je faisais que danser, sans m'arrêter.
Ouais, ça se voit, vous aimez ça?
C'était possédé.
C'est ça, vous aimez ça. La Magic System, c'est justement le symbole de ces soirées de copines ou...
Ouais, ça, nous on était...
Là on est dans l'adolescence, hein, total. Hein. Là vous avez 16-17 ans sur ce morceau.
Ouais, et on est... c'est en combien?
2000, je crois.
2001.
Ouais, voilà. Mais je suis en fac, j'ai 21.
J'ai commencé à bosser avec Ariane Mnouchkine.
Exactement, c'est ça. Et je suis dans ma période de mes années de fac avec Georges Bigot, qui est un ancien acteur de Mnouchkine, qui nous emmène là-bas chez elle avec Ariane. Et c'est là que je rencontre tous les 6 mois Carian, toutes les idoles de théâtre de ma jeunesse. Et je rencontre cette femme, Ariane, qui est sublimissime, qui est une merveille de femme et d'engagement. Et
on la décrit souvent comme une femme assez dure, c'est ce que dit en tout cas Philippe Cobert, qui a eu des années un petit peu, on va dire, tumultueuses.
Tendues, oui, c'est ça.
Ouais,
c'est quoi votre ressenti à vous, Céline, là-dessus?
Non, je pense que c'est une femme qui est très éveillée sur le monde qui l'entoure et sur les enjeux de notre société. Donc en fait, elle est juste... je pense pas du tout. Elle est, enfin, bien sûr, elle est exigeante à sa façon, mais...
Comme t'es chiné, voilà. En fait, les deux ont ça en commun.
Ouais, bien sûr. Mais les grands artistes en général.
L'exigence est excusée par l'intelligence. Si quelqu'un a beaucoup de talent, vous pouvez tout lui donner et accepter beaucoup de choses de sa part parce que vous avez envie d'être à la hauteur de son
surtout,
art.
Surtout, ce ne sont pas des pervers, ce sont des gens de être profondément humanistes et bienveillants, vraiment.
Voilà, donc c'est ça qui est important parce que d'autres pensent que simplement l'autorité et l'humiliation suffisent au génie, ce qui est totalement faux.
C'est nécessaire, c'est pas qu'elles suffisent, c'est qu'elles sont nécessaires.
Mais André, c'est jamais quelqu'un qui va humilier quelqu'un.
Des fois, il est dur, mais il dit t'inquiète pas, je parle au personnage là. Donc voilà, dès que c'est coupé, après c'est plus toi. Ouais. Mais là, je parle au personnage et c'est nul.
Mais vous avez dit, dans un entretien, vous avez dit qu'il vous prenait par l'épaule pour vous parler avec une certaine violence physique.
Il est très habité physiquement, mais il fait pas mal exprès. Il fait pas exprès, il se rend pas compte. C'est juste que quand il se déplace.
Tu te déplaces comme un pot de fleurs.
Ça fait mal parce qu'il est trop. Il est dedans.
Puis une fois, tu avais été choqué, toi, par un truc qu'il m'avait fait, c'est que je suis arrivé en Suzanne et qu'il a fait qu'est-ce que c'est que ça? Écoute-moi, moche.
Ça, c'est moche.
Ça va pas du tout. Repars en maquillage, tu reviens dans 2 heures, quoi. Ah ouais. C'était assez choquant. Mais moi, ça m'a pas fait grand-chose. Je me suis dit, bon, voilà, d'accord, elle est
Suzanne.
Moche.
C'était à Suzanne.
C'est Suzanne, c'est pas moi.
Elle est moche.
Je l'ai insultée, puis je me suis remis à me maquiller un peu mieux.
Vous avez ensuite intégré le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Ça, c'était plus tard en 2003. Et on arrive en 2013.
Dance. Move your body.
Exactement.
Et 2013, qu'est-ce que je faisais en 2013?
Je vais vous le rappeler.
Merci.
On écoute un peu Macalmo.
Ouais.
Like I get thank you, yeah. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you.
La définition de la musique que vous aimez, il faut d'abord qu'elle soit pour que vous dansiez, pour que vous bougez comme
bien,
vous faites maintenant.
J'aime bien, ouais. J'aime bien quand ça. J'aime bien danser.
Donc dans ces années-là, elle a reçu le prix.
Oui, le prix Romy Schneider, Céline.
Ouais.
Et là, c'est une sorte de grosse découverte. C'est les flashs pour la cérémonie. C'est une sorte de début d'ascension. Vous sentez que là, c'est là que ça décolle.
Il y a de rouille et d'os.
Ouais.
Oui, il y a ça. Et en même temps, dans mon parcours, il y a une espèce d'étrangeté comme ça qui est... je peux pas dire... Il n'y a pas d'ascension folle, quoi. Hein, sinon, ça fera un moment que je le sentirai. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je rêve quelqu'un pas très connu médiatiquement, tout ça. Les gens ne me connaissent pas vraiment un tout petit peu des fois, mais Mais j'adore en même temps cette espèce
Mais parce que vous rentrez chaque fois dans la peau du personnage, ce qui fait que...
On ne le reconnaît pas vraiment.
Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est pas toi. On peut, même les amoureux de la série des Revenants peuvent aussi être troublés ou perdus parce que vous êtes tellement le personnage. Dans la vie de tous les jours, vous redevenez extrêmement naturelle fraîche, puisque vous posiez la question, vous l'êtes. Et on se dit pas... Si, il peut y avoir des gens dans la rue qui vous croisent, j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part, mais sans rapidement...
Certains, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas connu ça, ce truc d'ascension fulgurante, d'un coup, voilà. Mais c'est beau, je trouve ça beau. C'est comme une chose de... Moi, j'adore les films que je fais, je trouve que j'ai trop de chance de travailler avec les cinéastes avec lesquels je travaille et jusqu'à présent, je touche du bois, j'ai un parcours magnifique.
C'est clair. Et Pierre de la Donchon, à ce moment-là, dans ces années 2013, vous écoutiez...
Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain règlement.
Ouais, on est dans la continuité des textes qui bougent et du rap, après MC Solar... Stromae.
C'est vrai, c'est aussi un clin d'œil aux années folles, puisque Stromae dans ce clip, tantôt homme, tantôt femme, parle sous les traits d'une femme, des hommes, et j'ai trouvé que la confusion des genres était intéressante. J'aime beaucoup ce clip, j'aime beaucoup ce chanteur, je trouve que ses textes sont sublimes, et donc c'était un de mes choix aussi pour le mettre en...
Non, puis il est dirigé par une sublime chorégraphe qui est celle aussi qui fait travailler Christine Anne de Queens, qui est une française parfaite. Vous remportez le César, là, cette fois-ci, du meilleur espoir masculin pour l'inconnu d'Ag dont on parlait
d'Alain Guiraudy. Et là, je revois le moment où vous recevez le prix. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, quand faut se lever? On est en pleine conscience d'un moment ou pas?
Je me souviens que j'avais demandé à être en bout de rang parce que j'avais peur de ne pas tenir toute la cérémonie et de pouvoir me carapater si jamais je commençais à avoir une crise d'angoisse, qui est mon cas assez souvent quand je suis dans des endroits où je ne peux pas bouger, surtout quand c'est filmé en direct. Et donc du coup, j'étais un petit peu stressé. Et je me souviens, quand j'ai entendu mon nom, j'ai fait comme ça et j'étais dans un nuage pendant tout le reste. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ça n'existait pas, j'étais dans quelque chose de différent. Donc j'avais écrit un truc, je l'ai sorti, j'arrivais plus à lire, je ne voyais plus les lignes. C'était vraiment un moment très émouvant, mais j'ai encore plus profité après que sur le moment.
Sur le moment même, on n'est pas forcément conscient totalement de ce qui se passe.
Ouais, j'ai appelé mes proches, ma mère, ma fille, mes amis, en FaceTime, parce que c'est pratique de pouvoir faire ça aussi juste après. Et c'est avec eux que j'avais envie de le partager le plus.
Je voulais juste rendre à Marion Motin son nom, celle qui est chorégraphe de Christine Dugin et de Stromae. Nos années folles, le film d'André Téchiné, tout est parti d'un roman, La garçonne et l'assassin. Fabrice Virginie, merci Fabrice d'être à ce micro.
Ouais, c'est cool.
Vous êtes historien et c'est dans vos travaux de recherche et même de la documentation de la préfecture de police que vous avez trouvé la naissance de cette histoire vraie. J'ai déjà oublié leur nom, Paul et Louise
Grappe et Landy. Oui, je travaillais sur les violences conjugales et donc j'examinais des dossiers d'homicides conjugaux à la préfecture de police, les dossiers de la brigade criminelle. Et parmi ces dossiers, pour l'année 1928.
Ah, ok, je voulais pas donner la fin du film, mais là on y va.
Voilà. Mais c'est pas tant la fin. Moi je trouve que c'est pas si grave de raconter le fait divers, parce que ce qui compte, c'est.
De toute façon, c'est trop tard.
Non, mais
il y a homicide en tout cas.
Puis ce qui compte, c'est l'évolution des personnages. C'est ça qui est.
Comme dans Roméo et Juliette, on connaît la fin, mais on va voir l'histoire quand même.
Mais c'est ça. C'est vrai. Comme pour les tragédies. C'est le
chemin. Voilà son rire. Vous l'avez découvert.
Je vais le garder en sonnerie portable. Le problème de cette histoire, c'est que vous manquiez apparemment au début de documentation. C'est-à-dire qu'il y avait quelques informations, mais pas l'intérêt de l'histoire.
Oui, c'est notre métier, c'est trouver des archives pour raconter une histoire, mais ce n'est pas un roman. Le livre que nous avons fait est un livre d'historien, un récit. Et c'est d'autant plus formidable de voir le film, c'est-à-dire de voir un passage à la fiction, où tout ce que nous, on s'interdit comme historien, parce que c'est quand même, notre métier, c'est pas de raconter des histoires ou d'inventer, c'est tout l'inverse. On peut le voir parce qu'évidemment, à travers la fiction, eh bien, on remplit les trous, on invente.
Alors
on
justement, ça, vous avez été consulté, j'imagine, par André Téchiné pour le film. Quelle est la proportion d'événements réels et de fiction pour nous qui avons vu?
Est-ce qu'André vous a décoiffé de temps en temps ou pas?
Non, jamais.
Non, jamais, vous avez de la chance.
J'étais pas expert sur la coiffure, au moins pour ce travail-là. Impossible de répondre. Et je ne veux pas. Je ne voudrais pas mesurer, parce que pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que je pourrais dire d'une certaine manière 100%, parce qu'il y a l'esprit de ce que sont nos années folles.
La toile de fond.
De 100%, d'accord. C'est fidèle à cette période-là, parce que le parcours de Paul est unique. Céline l'a dit tout à l'heure, mais est tellement révélateur de ce qui se passe à ce moment-là. Et puis...
Non mais par exemple...
Est-ce qu'il y a d'autres hommes qui ont fait ça pendant...
Non.
C'est Paul Grapp est une exception.
Est une exception.
En revanche, je crois que des femmes ont fait le chemin inverse.
Oui, il y a des femmes qui se déguisent en hommes.
Travesties en hommes.
Rejoindre leur mari au front,
des vrais patriotes,
s'engager. Voilà. Il y a une ligue des enrôlés même qui non, mais veut il se y a, battre. Alors, mais on veut absolument pas que les femmes.
Maréchal, rassurez-vous, dans le film, oui. Charles de Lauzin est un véritable.
Il fait l'apologie de la guerre. Oui.
Patriote, c'est un héros. Il fait l'apologie de la guerre et d'ailleurs, le cœur de Louise va balancer entre l'un et l'autre de ces hommes, ce qui donne encore une dimension encore plus forte à la situation. Mais dans le film, on disait tout à l'heure que le moteur était le personnage de Louise, incarné par Céline Salette, c'est-à-dire c'est elle qui va le déguiser, c'est elle qui va le transformer, le maquiller et l'encourager à sortir de sa planque. Ça, c'est la réalité ?
Non, ça, on ne sait pas. Parce qu'il y a des choses qu'on retrouve dans les archives, et le moment fatidique qui est comment leur vient l'idée de se mettre déguisé en femme, se travestir en femme pour Paul Grapp, ça, nous ne l'avons pas dans les archives. Donc nous ne savons pas ce qui se passe en tête à tête.
On sait qu'il a utilisé l'électrolyse.
Oui,
on sait qu'il a utilisé. Pour s'épiler, définitivement.
Ça, oui.
Et il me semble que c'est vrai aussi qu'elle travaille dans un atelier de confection de vêtements féminins.
Oui, oui,
donc elle devait en avoir sous la main.
Mais l'idée
pour comment déguiser, habiller,
là dans le film c'est les habits de la grand-mère, mais voilà. Dans la vraie vie elle travaille dans un atelier de confection de robes, de jupons, etc.
Et quand c'est on voit la tête de Fabrice, quand on voit la tête de Paul en photo
quand on
d'époque,
voit votre tête, Fabrice.
Non mais autant quand on voit Pierre, on peut se dire c'est totalement
joli,
oui c'est envisageable. Et je pense que vous avez des traits qui font que avec votre regard, votre bouche, on peut vous voir bien. En femme, non mais c'est vrai, et c'est beau. En revanche, Paul Grapp, quand on voit ses photos,
ça fait peur.
Dis-le, lui, là.
Oui, moi,
on les voit 100 ans après. Voilà. La manière d'être homme ou femme, c'est aussi des choses qui changent dans
le
temps.
On avait le droit d'être moche, ok.
Mais surtout, elles étaient considérées toutes les deux, Louise et Suzanne, comme les garçons de Paris. Elles incarnaient un nouveau style. Les cheveux courts, parfois, les bandeaux, les petites tenues.
Le grand nez, tout ça.
La pomme d'Adam.
Et plus d'affinité.
Oui, mais quand même, les faux.
Il y a un problème avec les grands nez.
Pour revenir sur
on
ce
peut que, revenir, s'il vous plaît, à.
Oui, vas-y, Albert. Sur ce que vous disiez, ce que disait Leïla, c'est effectivement, quand on voit les photos du Paul de l'époque, quand je disais il fait peur, je veux dire, il y a quelque chose de très, très, très masculin dans son physique, même grimé en femme.
Mais je pense que vous le voyez comme ça aujourd'hui, mais manifestement, à l'époque, il y a plein de gens qui ne le voient pas comme ça. La première fois qu'il sort. Habillé en femme, il se fait siffler dans la rue. Ça, on a ce récit-là fait par Louis.
Non, on écoute tout de suite.
C'est BFM TV.
Historien, c'est aussi beaucoup de frustration.
Ils ont micro-trotte et hop,
ils ont choisi. Nous n'avons jamais.
En revanche, ces soirées au bois, là, on comprend bien, enfin, ceux qui le rencontrent ont bien compris que ce n'était pas une femme.
Et il n'y a pas. Il y a des indices.
Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de dénonciation. D'ailleurs, il y a une scène qui est très jolie quand vous rencontrez la gueule cassée qui vous explique que vous allez avoir une surprise et que vous aussi.
J'ai dit, toi aussi, tu vas avoir une surprise.
Et voilà.
Et vous, c'est cadeau d'ailleurs.
Il n'y a pas de dénonciation à l'époque.
Il n'y a pas de dénonciation. À l'inverse, je crois qu'il bénéficie d'une grande complicité. Par exemple, Louise le dit à son employeur que son mari est déserteur et qu'il se cache. Il ne la dénoncera pas. Donc il y a une grande complicité. Et c'est vrai qu'ils vivent. Elles vivent toutes les deux en femme, en couple de garçons, et manifestement, il n'y a pas de problème majeur. Ils déménagent souvent, quand
même. À l'époque, il faisait la une des journaux ou pas ?
Alors, à l'époque, en 1925, quand lui redevient homme,
Et
c'est vrai que là, le
après l'amnistie,
le cabaret
il faut dire qu'il a été amnistié, qu'il a été...
Il n'a pas été amnistié lui individuellement, mais
non, il y a eu tous
les, la dernière vague des déserteurs amnistiés, elle est en 1925, donc 10 ans après...
Oui, parce que c'est l'histoire de deux amnistiés, finalement. Les
pourquoi deux,
bah parce que...
Elle l'a planqué, elle
n'a
pas déserté.
Non, et puis l'autre chose, c'est que nous avons... Alors, je ne vais pas dévoiler la fin, mais c'est vrai qu'il y a tout un... Les archives que nous avons, c'est essentiellement pour... Comment dire Sans dévoiler la fin, c'est difficile.
Pour
alléger sa responsabilité, en tout cas.
Il se passe un drame entre eux quatre, entre Suzanne, Louise, Paul et ce bébé, et puis voilà.
Alors c'est vrai qu'on va parler des charges qu'à charge.
On va parler du bébé parce que le bébé a un rôle très important dans le film. Il ramène finalement le couple à une réalité. Ils étaient dans un milieu de fantasmes, de délire et de débauche. Et ce bébé va ramener Louise aux vraies valeurs et elle va avoir à choisir entre son mari et son bébé.
C'est la dernière mutation.
Ouais.
Elle devient mère et lui doit devenir père.
Ouais.
Voilà, s'il y arrive.
Est-ce que dans les bouquins d'histoire, dans ce que vous avez trouvé en documents, on voit des témoignages ou des explications sur... parce que finalement, Paul, aujourd'hui, aurait peut-être eu envie de changer de genre, de sexe. Ça aurait pu être un des premiers transgenres en fait, de l'histoire. Est-ce qu'on comprend mieux pourquoi il a été attiré par Suzanne? C'est une sorte de deuxième identité, une naissance en fait. Il se reconnaît en Suzanne.
Là aussi, malheureusement, c'est un peu la limite du travail de l'historien, c'est-à-dire qu'on n'est pas psychanalyste ni psychologue. Ouais. Donc, quelles sont les motivations, on va dire, intimes, c'est toujours difficile de dire. Ce qui ne fait aucun doute, néanmoins, dans cette histoire-là, c'est que la guerre a profondément bouleversé ce couple et cet homme.
Louise,
n'oublions pas, il se marie, juste après, il fait 2 ans de service militaire, il croit qu'il va être libéré, et il enchaîne immédiatement sur la guerre. Et il part comme un bon petit soldat, il est décoré, c'est un bon tireur, etc.
Mais il prend peur sur quand il voit les horreurs
de la
guerre.
Il se fait blesser 2 fois quand même.
Louise, en moins de 6 mois. Louise est morte en 1981, à 90 ans. Oui. Elle a vécu avec toute cette histoire sans jamais l'écrire, la raconter, apporter des témoignages supplémentaires.
Elle disparaît des archives 6 mois.
Après le procès.
On
sait même pas quelle a été sa vie.
Non, ben non.
Si, elle s'est remariée avec Machin.
Voilà, elle s'est mariée avec Machin, exactement.
Un homme
six mois
s'appelait
après.
Monsieur Machin.
Qui reste un inconnu.
Je jure, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est génial.
Oui.
C'est génial.
Qui reste un inconnu.
Elle était avec Grappe et elle s'est mariée avec Machin.
Votre travail d'historien, j'imagine, est de rechercher comme ça des histoires absolument surprenantes, souvent sollicitées par le cinéma.
Non, là c'était vraiment un hasard justement. Mon travail d'historien et celui de Daniel Volman aussi, c'est plutôt de travailler sur des grands groupes, sur la société, comment elle vit les guerres. Et là on est tombé sur un parcours exceptionnel.
D'accord.
On n'est pas à la recherche d'histoires exceptionnelles. Parfois elles arrivent.
Elles le sont. L'histoire de Louise et Paul, donc déserteurs travestis dans le Paris des années folles, signé, qui s'appelle donc La garçonne et l'assassin, signé par Daniel Volman et Fabrice Virgilis, c'est aux éditions Petit Biblio Paillot. Merci d'être venu à ce micro, Fabrice. Tanguy, on va continuer de parler de guerre.
Absolument.
Avec Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Mais cette fois-ci, c'est pas la première guerre ni la grande guerre, comme on l'appelait. Vous allez nous parler de la guerre entre auto et vélo.
Oui, parce qu'hier, l'association de 40 millions d'automobilistes a dévoilé le numéro de téléphone d'Anne Hidalgo, maire de Paris, afin que les gens l'appellent pour lui dire ce qu'ils pensent de son plan vélo. Donc c'est comme de balancer l'adresse de Youssou N'Dour à une convention du Ku Klux Klan. Elle a entendu en 24 heures plus de noms d'oiseaux qu'Alain Grain-Dubourg en une vie entière passée à caresser des mouettes. La pauvre Nagui.
Merci, à tout à l'heure. Tanguy Pastureau sera à 10h10.
La bande originale, Nagui.
Une cascade de questions, des questions courtes avec des réponses courtes pour Céline Salette et Pierre de la Donchamp. On commence par Leïla.
Pierre, une femme à laquelle vous aimeriez ressembler?
Céline Salette.
Oh, elle est gentille.
Albert Algo.
Combien d'heures de maquillage?
En tout, maquillage, coiffure et habillage, 2 heures.
Guillaume Guise.
Céline, quand vous serez une grande star, c'est quoi votre premier caprice de star?
Ah ouais.
Merde! La caprice incompréhensible.
Hein. Ouais, c'est ça, c'est le principe du caprice. Daniel Morin.
Pierre, le meilleur spot du bois.
À gauche après le rond-point.
L'allée des branleurs.
Leïla.
Céline, un acteur avec lequel vous n'avez pas du tout envie de jouer.
On peut dire des noms,
bah ouais.
Non, c'est débile, c'est méchant.
Bah si.
Je ne sais pas. Ouais.
Bah là, c'est fait.
Ah. Qu'est-ce que c'est que cette association, les deux? Ça va pas.
L'info est à midi.
Allez, Richard, non, il est con.
Tout le monde est au taquet, c'est la deuxième partie pour la bande originale.
Le taquet n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, on est là, au micro. Merci Laetitia Gaillet. Tout à l'heure, le journal de 13h. Et Laetitia sera là toute l'après-midi pour vous informer. Merci encore.
Et de rien.
Bienvenue avec Leïla Kadhoubi-Dadi, Daniel Morin, Guillermo Gris, Tanguy Pastureau, Albert Algou, et nos invités Céline Salette et Pierre de la Donchamp. Nous parlons de ce nouveau Téchiné. J'aime bien, on parle de Téchiné comme si c'était une marque, comme si c'était un label.
Ouais. C'est un événement, un Téchiné au cinéma. Vraiment, ça s'attend.
On t'aime, André.
Il a quel âge, Téchiné, en fait?
74.
Alors ça, je sais pas. Vous savez précisément, 74, d'accord.
Et il a la fougue d'un jeune homme de 30 ans quand il tourne. Et
il est encore vert, c'est ce que vous voulez
ça
dire.
Ça inspire le respect.
Nos années folles, cette affiche que vous voyez partout dans Paris, où on a Pierre de Ladonchan de face c'est et Céline Salette de fesses. Mais c'est une très belle affiche qui explique bien ce qui se passe dans le film, cette complicité, parce que vous êtes maquillé. D'ailleurs, les moments les plus troublants, on rappelle, c'est un déserteur pendant la Première Guerre mondiale qui, après avoir combattu, après avoir vécu les horreurs de la guerre, ne veut pas y retourner, s'auto-mutile, et c'est sa femme qui lui propose de se maquillé en femme pour passer inaperçu dans le Paris des années folles. S'ensuit après
une exploration des plaisirs de la vie nocturne.
Ou une descente aux enfers, parce que est-ce que finalement cette exploration va mener le couple à sa perte alors que c'est une formidable histoire d'amour. Un enfant vient sceller cette formidable histoire d'amour, sauf que l'enfant aussi, là, le personnage ne l'accueille pas avec le meilleur des regards.
Vu qu'il pense et qu'il sait que sa femme a eu aussi des partenaires multiples pendant les parties fines qu'ils ont
fait. Ça y est, il revient sur la garde.
Il se dit
est-ce ça que c'est moche de l'accuser.
Il revient là-dessus.
Non.
Il pense qu'il n'est pas le père.
Il dit, est-ce que c'est moi le père de cet enfant? Tu veux jamais que je l'approche?
C'est surtout devenu un alcoolique, notoire, et un type qui ne sait pas faire autre chose que de prendre une bouteille. Et voilà.
Et qui ramène l'argent à la maison quand même, avec tout ce qui se fait comme prostitution. Okay. Il ramène des bracelets, des bagues.
C'est vrai, c'est lui qui fait bouillir la marmite.
Parce qu'elle, elle peint des soldats de plomb quand même. Faut le rappeler que c'est moi qui vais au turbin.
C'est pas facile, faut être précis.
Faut pas facile dans le plus, ça fait plomber.
Mais alors justement, est-ce que le fait que Louise soit attirée par un héros de la guerre qui se met à la draguer et la séduire, c'est un peu paradoxal, ou c'est justement l'opposé de son mari et elle va vers l'inverse, quelqu'un qui est dans l'aristocratie et qui lui a fait la guerre et qui lui est un héros.
Dans la fiction, c'est une porte de sortie, c'est-à-dire pour elle, alors que...
Un refuge aussi.
Ouais, elle est... Son type, son mari s'éloigne et s'abîme dans la nuit. C'est vrai que cet autre, et c'est une porte de sortie. Donc elle va vers lui et puis dans la fiction, il revient la chercher.
Est-ce qu'il y a une morale à cette histoire? Oui, c'est une histoire vraie, mais est-ce qu'il y a un enseignement à tirer de ça? Vous y avez pensé? Ou finalement, il faut le vivre comme une histoire vraie et comme,
Je ne sais pas s'il y a une morale... Non, je crois que c'est un...
Ça vous gêne la question, Pierre?
Si moi, je réfléchissais, pour moi, la morale de cette histoire, c'est où situe le courage pour un homme qui est forcé de faire la guerre et d'être potentiellement de la chair à canon? Est-ce que le courage, c'est de dire comme tous ses copains, je réfléchis pas, j'y vais, je me ferai tuer dans un, deux ou trois jours, ou trois semaines? Ou est-ce que le courage, c'est je me casse, cette guerre, je veux pas la faire, et j'en ai déjà assez soupé?
Si tout le monde fait ça, on est mal barré pour la guerre aussi. C'est un peu ce que disait Guillermo tout à l'heure. À la queue le courage. Sans tout le monde, on a l'air...
Oui, mais après, tu peux ne pas questionner une guerre et estimer que c'est pas
de... Là, c'est pas le débat. Là, quand il y a la guerre, il faut y aller. Tu discutes pas de j'y vais pas.
Il y a une scène terrible dans le truc, c'est quand
le
capitaine, ou je sais pas exactement, le supérieur arrive et dit...
Vous tirez avec le majeur, c'est bien assez pour tuer un Boche.
Exactement. Ouais. C'est vraiment ça.
C'est pas faux.
C'est pas faux.
Nos années folles, ce nouveau film avec le jeu, et je vous le dis dans le blanc des yeux, le jeu parfait, agréable, de vous voir tous les deux jouer, vous êtes vraiment sublimes.
Ah, merci
Céline
beaucoup.
Salette et Pierre de Ladonchan, Michel Faux dont on parlera tout à l'heure.
Et quel couple merveilleux vous formez, c'est ça aussi, c'est aussi le talent de Téchiné, de vous réunir à l'écran, et ça fonctionne tellement bien, parce que vous avez un truc quasiment naturel ensemble.
Mais c'est pour ça que moi j'ai rêvé Céline ou la lecture du scénario, c'est que déjà, j'aime beaucoup les rôles quand elle est un petit peu dans une intemporalité, parce qu'elle a un visage anachronique qui peut passer les époques.
Elle a un visage
et c'est un grand
cubiste.
C'est un compliment. Parce
que elle est de toutes les époques.
Elle est caméléon et j'aime beaucoup
que ça. Que ce soit dans la Polonie, ça fonctionnait aussi.
Là. Non, mais elle peut se transformer en tout.
C'est ça.
Elle peut se transformer
même
en tout.
Femme. C'est incroyable.
Même en femme.
C'est sa plus belle perte.
Nos années folles, c'est demain au cinéma, mais tout de suite sur Inter. Écoute, c'est Tanguy Pastureau.
Oh, oui.
Tanguy, avec les manifs aujourd'hui contre la loi travail, Paris risque d'être encore plus bouché que d'habitude.
Oui, bah oui, ça va, hein, parce que tous les jours c'est comme ça, donc on s'est habitué. Moi, pour être à l'heure ici aujourd'hui, je suis parti samedi soir. Je me suis fait doubler par un pigeon qui n'avait plus qu'une aile. Ceci à cause d'Anne Hidalgo, maire de Paris, qui mène un combat acharné contre la voiture. Quand elle en voit une, elle est dans le même état qu'un Hutu qui voit débouler un Tutsi à la fête d'anniversaire de son fils. Alors elle a commencé par piétonniser les quais de Seine, ce qui permet en semaine à 15h à quatre chômeurs en fin de droit de regarder le fleuve charrié de vieilles bouteilles de flotte, tandis que des rats dévorent une mouette morte dans un caddie rouillé. Elle a transformé Paris en film des frères d'Ardenne. Puis cet été, elle a lancé le plan vélo et depuis elle débite de la piste cyclable tel un cégétiste de la merguez. Plus de 100 km de piste en 2 mois. Depuis, tous les jours, elle reçoit des lettres d'amour de Christopher Froome qui lui dit « Bébé, viens voir Cricri. Avec ce que je m'envoie dans les veines, j'ai assez de patates pour tenir 75 heures la position de la brouette à barbe. C'est comme la brouette mais pour hipster parisien. Ah, elle est à fond. Si un jour elle devient maire de Monaco, le Grand Prix de F1 se fera en patinette. Seul souci, les voies pour voitures se réduisent aussi vite que le nombre d'adhérents au Parti Socialiste. Et tout le monde est bloqué. Philippe Poutou, dans sa 205 jean de 89, Neymar, dans son Audi R8 V10 Spider, et tous s'appellent les grandes gueules de RMC pour dire que s'il croise Hidalgo, il lui colle une pompe à vélo là, il pense et l'actionne. Celle-ci, au classement des trucs que les gens n'aiment pas, est en effet 3e, juste derrière les choux de Bruxelles et l'herpès. Sauf auprès de son cœur de cible, les Parisiens, hein, où elle cartonne, parce que les habitants n'en peuvent plus de la pollution. Hein, y a plus de particules à Paris que dans un dîner où Nadine de Rothschild aurait invité les Villepin. Ça pique et ça pue. Quand on sort, on a l'impression de se prendre de face la laine de Depardieu en fin de journée. Donc si on ne réduit pas la place de la voiture, on va tous mourir en même temps. Or, je vous apprécie bien sûr, mais j'ai bien l'intention de vous enterrer.
Alors, Anne Hidalgo, elle en a rien à faire de toutes ces critiques.
Hein. Non, elle s'en tamponne la chambre à air. Parce que pour elle, elle a raison. C'est Macron au féminin. Tous les autres ont tort. Avant tout parce qu'ils n'ont pas la chance d'être elle. Hein, la semaine dernière, elle a traité ceux qui la critiquaient de réac, puis de néo-réac. Ce sont des réacs modernes. Ils ont le dernier iPhone et draguent sur Tinder des fans de Finkielkraut. Et de fachos. Parce que, dit-elle, à travers elle, ce sont ses racines espagnoles qu'on vise. Voilà. Et c'est vrai qu'en 2017, le racisme anti-espagnol est exacerbé. Dans la rue, les types se font traiter de chorizo pourri. Et au moindre lac étal, vous risquez le lynchage. L'acteur Benicio del Toro n'ose même plus venir en France, ce qui laisse le champ libre à son équivalent français, Franck Leboeuf. Heureusement, Anne Hidalgo, ayant la double culture, les racistes ne la haïssent qu'à moitié, hein, jusqu'à la ceinture. Mais, dit-elle, elle est aussi détestée par les macho, puisqu'elle est une femme. Donc réac, néo-réac, facho, macho, le monde entier veut sa peau. Hein, je pense qu'elle imagine que les Illuminati, le soir venu, se réunissent cagoulés pour jouer au paintball sur sa photo. Hidalgo ajoute, c'est normal que je suscite des jalousies. Je suis une femme qui porte l'écologie, l'humanisme et dirige la plus belle ville du monde. Hein, bref, on va fondre 10 ballons d'or pour fabriquer un gros boulard d'or et le lui remettre. Alors à noter qu'hier, la guerre auto contre vélo a atteint son apogée, ah bon, puisque l'association 40 millions d'automobilistes, c'est comme 30 millions d'amis, sauf qu'on n'a pas envie de caresser un kangourou, mais un kangou tout court, a diffusé le numéro de téléphone du bureau d'Hidalgo, afin que les gens lui disent ce qu'ils pensent d'elle. Donc entre les réacs, les néo-réacs, les machos, les fachos, ça sonne 24 sur 24. Hein, comme elle est à moitié espagnole, elle leur répond « espèce de mierda, héros des prostituées, yolo sabes que j'ai raison », puis elle raccroche. En fin de journée, épuisée, harassée, elle regarde la station Vélib, tandis que Lucifer murmure à son oreille « Anne, prends ta voiture qui pollue. Si tu pars maintenant, tu peux être sortie de Paris dans 9h30. » Puis un angelot lui dit « Anne, ne sois pas égoïste, pense au poumon de cet enfant qui dans 10 ans votera pour toi. Enfourche ce vélo. » Voiture, vélo, le bien, le mal, on en est tous là à Paris.
Merci.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
La bande originale de Céline Salette et Pierre Deladonchamp qui sont nos invités, qui participent à ce film, qui portent ce film Nos années folles, avec Michel Faux que nous recevrons pour Tartuffe, qu'il va jouer au théâtre bientôt. Le rôle de Michel Faux étant cette respiration de l'univers d'André Téchiné, c'est-à-dire ce fantasme qui devient un spectacle carrément.
Oui, et puis c'est un hommage à Ophuls, à Lola Montes, voilà. Et puis ils l'ont un petit peu, je crois, ils en ont beaucoup parlé ensemble avant le tournage. Avec André voulait que ce soit Michel qui fasse ce rôle et ils en ont beaucoup parlé. Et c'est vrai que
vous dire qu'ils l'ont presque créé ensemble.
Je crois bien, ouais. Oui. Bah, je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais je crois bien qu'ils ont beaucoup bossé ensemble en amont. Et je trouve que lui, c'est cette idée-là qu'il a eue de refaire ces scènes de reconstitution, la mise en abîme du comédien qui parle de lui-même avant, après, en homme, en femme. Et donc, du coup, ça permet à Paul Suzanne de se montrer dans un écrin beaucoup plus exalté.
Oui, mais avec, avec Paul qui joue son propre rôle, Louise, elle, ne le joue pas comme si elle refusait finalement cette histoire ou la manière dont elle tourne. Et puis, on se retrouve plongé dans les années folles avec les spectacles de cabaret,
ouais.
Très denses, très présents. Mais elle y va quand même au spectacle, hein, Céline. Louise, elle
ouais,
va le voir.
C'est la beauté de cette mise en abîme. Évidemment, elle n'est pas. C'est comme si elle n'était pas actrice de l'histoire, mais de toute façon, elle est.
Elle regarde ça de l'extérieur.
Ouais, elle est représentée, mais en oui.
De toute façon, Louis, c'est un personnage du réel. Mm-hmm. C'est pas un personnage de la fiction et du fantasme comme celui de Paul Suzanne. Michel Faux, c'est vrai, est merveilleux dans le film, et moi, je l'aime infiniment comme acteur.
Ah bah, il est
sublime. Trop fier de jouer, de tourner avec lui.
Il est sublime et extrêmement drôle.
Entre
c'est vrai.
Deux invectives d'André Téchiné, on allait se prendre un petit café en disant oh là là, qu'est-ce que c'est sympa ce tournage. On a beaucoup aimé ce tournage, je plaisante, on a beaucoup aimé.
Il est l'heure maintenant d'avoir le rêve de Daniel Morin sur un terrain.
Nagui.
Oui, Daniel.
Et vous, Jean que j'aime.
Je
dois vous l'avouer, j'ai passé une nuit difficile, très difficile.
Je suis ravi.
Non, il ne s'agit pas du énième harcèlement de Hélène, notre réalisatrice, qui depuis qu'elle a découvert avec moi la vérité du plaisir, me colle au train comme un slip humide. Non, pas du tout. C'est à cause de l'actualité de nos invités. Leur film, Nos années folles, m'a bouleversé.
Troublé.
L'histoire de cet homme, Paul, qui devient Suzanne, m'a plongé dans de profonds tourments. Dans mon rêve, j'étais en train de faire des courses. Pour être précis, j'étais à la recherche de souliers. Perdu dans la halle aux chaussures, je m'affairais. D'un seul coup, réalisé que j'étais au rayon femme. Je relève la tête pour chercher le rayon homme, et là, je tombe sur un miroir qui, me revoyant mon reflet, m'abasourdi. C'était bien moi dans ce miroir, mais... Mais j'étais maquillée comme une souillon, coiffée d'un ridicule bibi et habillée d'un fourreau moulant issu des tissus les plus élastiques, fourreau qui me couvrait du haut du téton au bas du pubis. Une vraie traînée. Choquée au départ, puis étonnamment ravie, je me mis à rire. Oui, un vrai rire de conne. Intriguée par ma plastique, je commençais à tortiller du boule comme une Shakira sous ecstasy, provoquant la colère des femelles alentour, mais l'enthousiasme des mâles. Mâles qui, à la vue de mes ondulations pelviennes, commençaient à transpirer de la moustache. J'étais en feu. En feu au sens littéral du terme, puisque sous l'effet volcanique de ma danse érotico-jacquimichelienne, le lycra de mon fourreau prit feu, et en un dixième de seconde, j'étais en sous-vêtements. Un petit ensemble, Victoria's Secret, saumon, dentelle noire, culotte tanga, fendue, soutien-gorge balconnet, légèrement transparent, le modèle mi-maman, mi-pute. Ce qui devait arriver arriva, je me pris une main aux fesses. Ouh. Je me retourne à la vitesse d'un typhon, prêt à sermonner le mécréant au main volage, d'une réplique du style « Non mais ça va pas, colère, moi ma main c'est dans la gueule que je vais la mettre ». Mais sans que je sache pourquoi, j'ai simplement répliqué « Ouh, bonjour Apollon, c'est à toi ces grosses mains calleuses ?» Apollon, qui dans une répartie aussi chevaleresque que distinguée, me répondit « Ouais, c'est à moi, t'es bonne madame !» Filmé, flatté par le compliment bien senti de mon chevalier, je rougis comme un scout nu devant Morandini. Puis, ma femme me sortit de mon sommeil, énervé que dans mon délire somnambule, je vide son dressing. Turlupiné par ce rêve qui, oula, je vous l'avoue, le rose aux joues m'avait mis, j'ai immédiatement été voir mon maître et conseiller spirituel, cousin éloigné d'un célébrissime ministre de la culture, maître Danjak Lang. Bonjour, maître.
Salut, Daniel.
Maître, je vous laisse...
Mets-toi à l'aise, donne-moi ta veste.
Non, c'est pas une veste, c'est mon peignoir, j'ai rien dessous.
Qu'à cela ne tienne, je te prête mes chaussons. Non.
Maître Jean-Jacques, la nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais habillé en femme dans un grand magasin.
Formidable.
Non, mais c'est un peu gênant.
Pas du tout. Moi, ça m'arrive aussi, tu sais.
Ah bon?
Mais oui, est-ce que ça t'a donné du plaisir d'être habillé en femme?
Je dois avouer que j'ai plutôt aimé.
À la bonne heure.
J'ai un peu honte, quand même.
Mais non, il ne faut pas. Et quand bien même, la honte, c'est souvent le début du frisson. Tu sais, pour la fête de la musique que j'ai inventée avec mon cousin, eh bien, nous nous retrouvons avec deux de mes meilleurs amis, habillés en femmes pour former un groupe, et jouer dans les parcs, les bois, les fourrés, les talus et les bosquets.
Je savais pas que vous aviez un groupe, c'est quoi le nom?
Les Sisters Banana Fucker, Mini Jupe Kenzo, stiletto le boutin, 16 cm, bustier de cuir Thierry Mugler. On est plutôt canon.
C'est quoi comme formation ?
Eh bien, je suis à la grosse caisse, Laurent Vauquier est au pipeau, et Jean-Pierre Elkabbach au xylophone.
Grosse caisse, pipeau, xylophone, sacré trio, vous jouez quoi comme style ?
On fait pas mal de reprises jazzy.
Ah oui, grosse caisse, pipeau, xylophone pour du jazz ?
Oui, je te garantis que ça envoie sa race.
Sinon, pour revenir à mon rêve, maître Jean-Jack...
Eh bien, c'est bon signe. Ça veut dire que tu n'as pas peur de sortir des sentiers battus, du conformisme, que tu es prêt à remettre en question ton identité de genre, que ta curiosité de l'autre n'a pas de limites intuitives. Ton rêve traduit une ouverture d'esprit qui t'honore et un désir d'universalité des sexes.
Si je peux me permettre, maître, vous dites quand même de la merde.
J'en ai fait une carrière, tu sais.
Sinon, j'ai pas à m'inquiéter.
Pas du tout. Et c'est si agréable comme sensation de porter la jupe et d'avoir à la tombée de la nuit ce petit vent taquin qui vous flatte le croupion.
C'est pas faux. Merci, maître Jean-Jacques.
Mais de rien, mon lapin. Oui. Allez, viens sur mes genoux, je vais te chanter du Michel Sardou.
Oui, un peu plus tard. Merci, à demain.
Merci, Radog.
La bande originale, La Vie, sur France Inter.
Nos années folles, le nouveau Téchiné sort demain au cinéma avec Céline Salette, Pierre Deladonchamp, mais également Michel Faux, comme on le disait tout à l'heure, Grégoire le Prince Ringuet,
ouais,
Virginie Pradal,
Marna
Prasinos, pardon, Axel Ekiné et Peter Bonk, entre autres, dans ce casting extrêmement bien fait, parce que voilà, tout le monde est juste, joue bien, interprète le personnage sous la direction, vous l'avez dit tout à l'heure, très cadrée, sérieuse et d'André Téchiné où il sait ce qu'il veut et il va toujours à la recherche de la perfection. Justement, qu'avez-vous appris au contact d'André Téchiné, Céline ?
Beaucoup de choses, mais des choses que je ne dirai pas ici.
Non, mais sur votre métier, vous voulez dire ?
Oui,
vous avez appris
sur vous.
Mais pourquoi ne pas le dire ?
C'est des secrets de fabrication.
Non, mais je sais pas.
Non, mais
c'est quelque chose de gênant à
dire. Non,
c'est pas
très gênant. Non, mais c'est du travail, donc c'est intime. C'est ça qui est bien.
D'accord. C'est-à-dire qu'il vous a, de la manière dont il vous a dirigé, vous a fait découvrir une autre dimension de la comédienne que vous êtes.
Ouais.
Carrément.
C'est quoi, c'est son regard, son.
Oui, et puis son expérience, je sais pas. Et puis c'est lui, en fait. Et en fait, en réalité aussi, je crois que ce qui le caractérise, c'est son rapport à la vérité. C'est quelqu'un qui ne ment pas. Et donc, il peut paraître brutal. Et en réalité, il est
sincère.
Il vous dit des choses que peut-être d'autres ne vous diront jamais et qui vous permettent d'avancer.
Donc, dans une carrière, en fait, il y a pas 20 000 rencontres comme ça. En fait.
Je pense pas. Non.
Ouais.
Et vous, Pierre Deladonchamp, qu'avez-vous retenu de cette expérience avec Téchiné ?
Je crois que j'ai eu un déclic aussi parce que ce personnage demandait tellement de lâcher prise et de saut dans le vide que je me suis dit bon ben voilà, on va le faire, on va arrêter de se poser des questions, on va l'écouter quand il y a besoin de l'écouter pour la direction d'acteur. Et j'ai essayé avec Céline, grâce à Céline aussi, parce que c'est une partenaire de rêve, de voilà.
Est-ce que face à un André Téchiné, on continue de proposer ou on attend de savoir exactement ce qui est demandé?
Ah non, non seulement on a proposé de plus en plus au fur et à mesure du tournage, mais en plus il a de plus en plus accepté certaines choses qu'on proposait. C'est-à-dire qu'on s'est trouvés tous les trois au bout d'un moment donné et on avait compris. Et donc il nous laissait un petit peu le champ libre parfois parce que voilà, il y a le scénario qui est écrit, il y a le tournage, il y a le montage, donc il y a plein de choses qui se passent entre tout ça. Et avec Céline, on a pu parfois proposer des choses qu'il a beaucoup aimées. Donc ça fait vraiment plaisir ça. Là, on se sent créatif un peu.
Ouais, comme il y a aussi, comme dans tout film, des scènes qui ont été tournées dans l'ordre de la production et pas forcément dans l'ordre du montage. Quand vous avez vu pour la première fois le film avec sa chronologie par moments surprenante, par ses allers-retours entre réalité et fantasme, qu'avez-vous ressenti, Céline Salette ?
Moi, j'étais assez choquée, mais parce que en réalité, sur le tournage, on a vécu un espèce d'état de grâce, un peu dingue, tous les trois, Pierre, André et moi. Et on était un peu en transe. Et c'est vrai que le film, je trouve, dans sa folie déconstruite, raconte bien cette espèce de saut, ces espèces de bond. Il y a quand même un truc qui est un peu jaillissant dans le film.
Pierre, votre sentiment en sortant de la première projo ?
Un petit choc, mais parce que bah forcément, moi, j'aime pas trop me voir jouer au cinéma. Là, en plus, c'était déguisé en femme parfois. Mais
il faudrait savoir, vous aimez pas quand vous êtes nu, vous aimez pas quand vous êtes habillé. Il y a un moment où il va falloir quand même que vous
changez de carrière. Non, j'aime bien le faire. Non, j'ai bien aimé faire tous ces films. J'en suis très fier. Mais se voir, c'est autre chose. Parce qu'on ne voit que soi. On ne voit pas un acteur qui joue un film. On n'a pas assez le recul, quoi.
Oui, on voit pas
le personnage. Il a fallu trois fois pour commencer à apprécier le film de manière complètement objective. Enfin, au maximum. J'ai
sans chercher bien. À voir si c'était bien ou pas bien
c'est
ce
ça.
Que vous faisiez.
Ouais, les défauts, les machins. Les... Et puis sinon, non, j'ai trouvé que ce film, avec ce montage qui part dans tous les sens, qui perd le spectateur autant que sont perdus ces personnages de ce film, c'est une très bonne idée, même si ça peut en déconcerter certains, si on le sait à l'avance. On voit ce film de manière beaucoup plus ouverte et on le reçoit mieux, j'ai l'impression.
Le film sort demain au cinéma, ça s'appelle Nos années folles, signé André Téchiné, mais vous avez déjà un autre film que vous avez tourné qui s'appelle Un peuple et son roi, Céline, dans lequel vous jouez
Reine Odu, c'est un personnage historique, c'est un film de Pierre Scholler.
Avec Laurent Lafitte et Louis Garrel.
Oui, Adèle Haenel et Gaspard Ulliel et Noémie Lvovsky et Olivier Gourmet.
Ouais,
voilà.
Okay.
Et entre autres, et moi je joue un petit rôle dans le film. C'est une fresque historique autour de la Révolution. Et Reine Odu, elle a vraiment existé. C'était une vendeuse de harangues de la Halle, une des femmes de la Halle, qui était parmi les leads des femmes populaires.
Et vous serez au théâtre.
Retour au théâtre.
Ouais. Oui, je vais être au théâtre avec, sous la direction de Simon Stone, qui est un génial metteur en scène.
Pour un Tchekhov.
Oui, qui a fait une réécriture des Trois Sœurs de Tchekhov, et on est à l'Odéon en octobre.
Et, ouais, et puis vous au théâtre, c'est un conseil à donner, il faut aller voir Céline Salette sur scène. Moi, je vous avais vu dans Molly Bloom, j'avais pris une grosse claque. Et autant vous avez
pas,
vu
on
dans.
On sort pas indemne quand on vous voit sur scène.
Non, mais
c'est comme vous avec tes chinés.
Non, mais ça, au théâtre, franchement, je trouve que, non seulement au cinéma, mais au théâtre, je trouve que Céline Salette, elle a une puissance assez rare. Et Molly Bloom, c'était un texte pas facile, très long, très physique. Et vraiment, moi, j'étais complètement impressionnée. C'était un texte de James Joyce, et c'était vraiment magnifique.
Merci, c'est gentil.
Je plus sois. Vous, Pierre de la Donchamp, vous serez dans Big Bang,
oui.
Qui est une comédie de Cécilia Rouault.
Tout à fait.
Avec beaucoup de filles autour de vous, Camille Cotin, Vanessa Paradis, Chantal Lobby.
Et un homme, Jean-Pierre Bacri.
Voilà. Quel est votre personnage?
On joue une fratrie avec Vanessa Paradis et Camille Cotin, nos parents Bacri et Lobby. Et un mec un petit peu paumé, un petit peu dans l'alcool, mais un petit peu drôle malgré lui, à qui il arrive plein de péripéties, et on croit qui veut toujours mettre fin à ses jours, alors que pas du tout. Et surtout, il veut absolument pas entendre parler de la garde de la grand-mère qu'ils veulent essayer de partager pour ne pas qu'elle aille en maison de retraite.
Et très rapidement, vous serez dans Les Chatouilles aussi, dont on va reparler dans cette émission avec l'excellente Andrea Bescon, mise en scène par Éric Métayer. Là aussi, on sort pas indemne quand on voit cette scène. Moi, j'étais en larmes à la fin de ce.
Et puis un Christophe Honoré, bientôt. J'ai vu des images de tournage et j'ai hâte.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé déjà pour Maria Carey, dont le physique a été moqué par Céline Salette, pour Benoît Magimel, qui s'est fait traiter de vioc par Pierre de la Donchamp. Ah, la grande famille du cinéma. Désolé pour tous les réalisateurs qui avaient prévu pour leur prochain film de demander à Céline de, je cite, tenir un acteur par la bite. Elle l'a déclaré ce matin, elle a été claire, elle ne fait pas ça. En revanche, je crois savoir que contre une bonne paire de gants, Leïla, elle agrippe n'importe quoi. Désolé enfin pour Pierre, dont la prestation dans Nos allées folles a été résumée par Céline Salette.
Et enfin, c'est une belle pute.
Voilà, comme ça c'est fait.
Merci mille fois et encore bravo à tous les deux, Céline Salette.
Merci
à vous, la Donchamp. Demain, c'est Denis Podalydès qui sera notre invité. Pardon pour ce retard tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Qu'est-ce que c'est?
C'est la sirène, l'alarme.
Oui, très bien.
Mais il est déjà 13h, c'est le journal.
Désolé, on déborde, c'est vrai.